Épilogue. Le cinquième jour après le prononcé du jugement, vers 8 heures du matin, Alyosha vint chez Katerina Ivanovna pour s'entendre avec elle au sujet d'une question qui les intéressait tous deux. Il avait d'ailleurs une prière à lui faire de la part de Dmitri. Elle se tenait assise dans ce même salon où elle avait naguère reçu Grushenka. Ivan Fyodorovitch était dans une pièce voisine, il délirait. Aussitôt après la scène du tribunal, Katerina Ivanovna avait fait transporter Ivan chez elle, sans égard pour les jugements du monde. Une de ses tantes était partie pour Moscou, l'autre était restée, mais elles auraient pu partir toutes deux. La décision de Katerina Ivanovna n'en eût pas été changée. Elle était décidée à soigner elle-même Ivan Fyodorovitch avec l'aide des docteurs Varvinsky et Elzenstube. Quant au célèbre médecin de Moscou, il y était retourné, refusant de se prononcer sur l'issue de la maladie. Varvinsky et Elzenstube s'efforçaient de rassurer Katerina Ivanovna et Alyosha, sans toutefois leur donner des espérances certaines. Alyosha visitait le malade 2 fois par jour, mais ce matin-là, il venait pour une affaire toute particulière, très difficile à exposer, et il se hâtait, étant appelé ailleurs par une autre importante affaire dans cette même matinée. Katerina Ivanovna et Alyosha causait depuis un quart d'heure. Elle était pâle, très fatiguée, très agitée et semblait pressentir le but de la visite d'Alyosha. Ne vous inquiétez pas de ses intentions. D'une façon ou d'une autre, il faut qu'il s'évade. Ce pauvre garçon, ce héros d'honneur et de conscience... Non, je ne parle pas de Dimitri, je parle de celui qui est malade ici. Il m'a depuis longtemps déjà expliqué divers plans d'évasion. Il a même fait des remarques, des démarches, j'en ai déjà parlé. Voyez-vous, ce sera sans doute à la 3e étape, quand les condamnés seront envoyés en Sibérie. Ivan Fyodorovitch a fait le voyage exprès pour connaître le chef de la 3e étape. Mais... on ne sait pas encore qui conduira le détachement. D'ailleurs, cela n'est jamais connu à l'avance. Je vous montrerai demain dans tous les détails les plans que m'a remis Ivan Fyodorovitch la veille du jugement. C'était l'autre jour, vous vous rappelez, ce soir où vous nous avez surpris à nous quereller. Il descendait dans l'escalier et moi, en vous apercevant, je l'ai prié de revenir. « Savez-vous à propos de quoi nous nous querellions ?»« Non. »« Alors il vous a caché cela. »« Il s'agissait précisément de ses plans d'évasion. »« Déjà 3 jours auparavant, il m'avait expliqué les principaux points de ses plans. »« Il voulait que Dmitri, s'il était condamné, s'enfuit à l'étranger avec cette créature. »« Et c'est alors que je me suis fâché. » Je ne sais pourquoi moi-même. Ce n'était certes pas à cause d'elle, s'écria Katerina Ivanovna, les lèvres tremblantes de colère. Mais Ivan Fyodorovitch me crut jalouse d'elle, et par conséquent encore éprise de Dmitri. Voilà la cause de notre première querelle. Je ne voulus pas donner d'explication. M'excuser m'était impossible, et je souffrais qu'un tel homme puis se tromper au point de me croire encore esclave de mon amour passé pour ce... Et cela après que je lui avais dit moi-même que je n'aimais plus Dmitri et que je l'aimais lui, Ivan, et lui seul. Ce n'était pourtant que de la colère et du mépris que j'avais pour ce couple. 3 jours après cette première querelle, il m'apporta, justement le soir où vous êtes venu, une enveloppe cachetée que je devais ouvrir dans le cas où il lui arriverait quelque chose à lui, Ivan, quelque chose qui le mit dans l'impossibilité d'agir en personne. Oh, il avait le pressentiment de sa maladie. Il m'avertit que cette enveloppe contenait les plans d'évasion et que s'il mourait ou tombait malade, je devrais à sa place sauver Mitya. Il me laissa en même temps 10 000 roubles. Je fus vivement impressionné par ce fait que, tout jaloux qu'il fût de Dimitri à cause de moi, et convaincu que je lui préférais encore, Ivan ne m'abandonna pas son frère, et que ce fut à moi, oui, à moi, qu'il confia le soin de le sauver. Quelle sublime abnégation! Vous ne pouvez comprendre toute la grandeur de cette action, Alexeï Fiodorovitch. J'étais au moment de tomber à genoux devant lui, mais j'ai craint aussitôt qu'il ne prît cette démonstration pour un témoignage de ma joie à la pensée que Dimitri serait sauvé. Oh, la possibilité d'une telle injustice m'irrita si fort qu'au lieu de lui baiser les pieds, je lui fis une nouvelle scène. Oh, je suis très malheureuse. Quel terrible caractère! Vous verrez, il sera obligé de m'abandonner pour une autre qui lui fera une vie plus facile. Comme Dimitri, mais alors. Alors je me tuerai. Au moment où vous êtes arrivé ce soir et où j'ai ordonné à Ivan de revenir, quand vous êtes entrés tous deux, ces regards dédaigneux me jetèrent dans une telle colère que je m'écriai tout à coup, vous vous en souvenez, que c'était lui, lui seul, qui m'avait dit que Dimitri était l'assassin. Mais je le calomniais, car jamais il ne m'a dit une telle chose. Et c'est moi seul qui accusais Dimitri. C'est toujours une violence, ma violence, qui fait tout le mal. Car je suis encore la seule cause de cette maudite scène devant le tribunal. Il voulait me prouver qu'il avait l'âme noble, que je pouvais aimer son frère, qu'il ne le perdrait pas par vengeance, par jalousie. Et c'est pourquoi, devant le tribunal, il a dit ce que vous savez. C'est moi qui ai fait tout le mal. Jamais encore Katia n'avait fait de tels aveux à Alyosha. Il comprit qu'elle était dans cette intolérable situation où le cœur le plus orgueilleux succombe sous le poids de ses mots, et il connaissait aux souffrances de la jeune fille une autre cause encore, bien qu'elle la cachât depuis la condamnation de Mitya. Elle souffrait à la pensée de sa trahison devant le tribunal. Et il pressentait que la conscience droite, qui dirigeait cette âme violente, lui prescrivait d'avouer aussi cette autre cause de ses souffrances et de l'avouer précisément devant lui, le frère de la victime. Terrible aveu qui n'irait pas sans larmes, sans crise peut-être. Il redoutait cet instant et voulait l'épargner à Katerina Ivanovna. Mais sa mission n'en devenait que plus difficile. Pourtant, il ramena de nouveau la conversation sur Mitya. Ne craignez pas pour lui, reprit Katia. Ces hésitations ne sont que momentanées, ou je le connais trop. Soyez sûr qu'il finira par consentir à fuir, surtout s'il n'est pas immédiat ou si on lui laisse le temps de se décider. Ivan Fiodorovitch sera guéri vers ce temps-là et conduira lui-même l'affaire de sorte que je n'aurai pas à m'en mêler. D'ailleurs, Dmitri peut-il refuser? Peut-il abandonner cette créature? Car on ne les laisserait pas ensemble au bagne. C'est vous surtout qu'il craint, c'est votre blâme au point de vue moral. Il faut avoir la générosité de lui permettre de s'évader, puisque votre sanction est si nécessaire ajouta-t-elle avec ironie. Elle se tut à l'instant, sourit et continua. Il parle d'hymnes à chanter, de croix à porter, d'un certain devoir. Oh, je m'en souviens, Ivan Fiodorovitch m'a rappelé tout stepté, tout ça. Si vous saviez en quels termes, si vous saviez combien il aimait ce malheureux au moment où il m'en parlait, et combien peut-être il le haïssait en même temps. Et moi, je l'écoutais parler, je le regardais pleurer, je souriais. Oh, créature, créature abominable que je suis, c'est moi qui l'ai rendu fou. Mais l'autre, le condamné, est-il capable de souffrir? Lui, souffrir, oh, jamais. Des êtres comme lui sont à l'abri des souffrances morales. Une sorte de haine, de dégoût, vibrait dans sa voix. Et pourtant, c'est elle qui l'a dénoncé. Eh bien, peut-être ne le est-elle que par conscience de sa culpabilité envers lui, pensa Alyosha. Les dernières paroles de Katia impliquaient une sorte de provocation, mais Alyosha ne la releva pas. C'est pour cela que je vous ai fait venir aujourd'hui, pour que vous me promettiez de le convaincre. Mais peut-être jugez-vous qu'il serait malhonnête, enfin médiocre, de s'évader, peut-être encore pas chrétien, dit Katia en accentuant sa provocation. Non, rien. Je lui dirai tout, murmura Alyosha. Mais il vous prie de venir aujourd'hui, dit-il tout à coup en la regardant en face. Elle tressaillit et fit un mouvement en arrière. Moi ? Est-ce possible ? Fit-elle en pâlissant. C'est possible et c'est nécessaire, dit Alyosha d'un ton ferme. Il a plus que jamais besoin de vous. Je ne vous aurais pas parlé de cela, je ne vous aurais pas causé cette souffrance sans nécessité. Il est malade, il est comme fou, il vous demande. Oh, ce n'est pas une réconciliation qu'il veut. Montrez-vous seulement sur le seuil de sa cellule. Il comprend combien il est coupable envers vous. Il ne vous demandera pas votre pardon. On ne peut pas me pardonner, dit-il lui-même. Il veut seulement vous voir sur le seuil de sa cellule. Vous, comme cela, tout à coup, murmura Katia. Je pressentais depuis longtemps que vous viendriez me demander cela. Je savais bien qu'il m'appellerait. Mais c'est impossible. Soit, oui, impossible, mais vous le ferez. Souvenez-vous que c'est la première fois qu'il a le remords de tout le mal qu'il vous a fait. La première fois, car jusqu'à ce jour, il ne pouvait même comprendre toute la profondeur de ce mal. Il répète que si vous refusez de venir, alors il sera toujours malheureux. Entendez-vous ? Un condamné à 20 ans de travaux forcés demande 1 minute de bonheur. N'aurez-vous pas pitié ? Songez qu'il est innocent, dit Alyosha avec un air de défi. Ses mains sont pures du sang paternel. Au nom des souffrances infinies de l'avenir, venez maintenant, venez, il va entrer dans les ténèbres. Sur le seuil seulement, sur le seuil. Vous devez consentir. Je le dois, mais je ne le peux pas, dit Katia en sanglotant. Il me regarderait, je ne puis. Vos yeux et les siens doivent se rencontrer. Comment, si vous refusez, aurez-vous le courage de vivre ensuite? Plutôt souffrir toute ma vie durant. Vous devez venir, vous devez venir. Mais pourquoi aujourd'hui, pourquoi tout de suite, je ne puis pas abandonner le malade? Pour un instant, vous le pouvez, rien qu'un instant. Si vous ne venez pas, Dimitri aura le délire cette nuit, je ne vous mens pas en grâce. C'est moi qui vous demande grâce, dit avec amertume Katia, et elle fondit en larmes. Vous venez alors, dit Alyosha en la regardant pleurer. Oh, je vais lui dire que vous venez tout de suite. Non, non, oh non, pour rien au monde, ne lui dites rien, s'écria Katia épouvantée. Je viendrai, mais ne lui dites pas. Car peut-être n'entrerai-je pas, je ne sais pas encore. » Sa voix mourut dans un sanglot. Elle respirait péniblement. Alyosha se leva. « Et si je rencontrais quelqu'un ? » dit-elle tout bas en pâlissant de nouveau. « Mais c'est pourquoi il faut venir tout de suite. Il n'y a personne maintenant, vous pouvez m'en croire. » « Nous vous attendons, » dit-il avec fermeté. Il sortit. Il se hâta vers l'hôpital où était maintenant Mitya. Dès le lendemain du jugement, il avait eu un accès de fièvre nerveuse et avait été envoyé à cet hôpital où d'abord on lui assigna un lit dans la salle commune des condamnés. Mais le docteur Varvinsky, sur la prière d'Alyosha, de Madame Kholchakov, de sa fille et de bien d'autres, avait fait mettre Mitya dans une chambre à part. Il est vrai qu'à la porte se tenait un factionnaire et que la fenêtre était grillagée. Varvinsky pouvait donc être rassuré sur les conséquences de sa complaisance. On avait aussi permis aux parents et aux amis du malade de le visiter. Mais Alyosha et Grushenka profitaient seuls de cette permission. Alyosha s'était entendu avec Varsvinsky pour empêcher le séminariste Rakitin de parvenir jusqu'à Mitya. Alyosha trouva son frère assis sur sa couchette dans sa robe d'hôpital. Dimitri avait un peu de fièvre. Sa tête était entourée d'une serviette mouillée de vinaigre et d'eau. Il jeta un regard vague sur Alyosha. Il y avait aussi de l'appréhension dans ce regard. En général, depuis sa condamnation, il était devenu très absorbé. Il restait toute une demi-heure sans parler, semblant réfléchir sur quelque pénible sujet et oubliait ce qui l'entourait. S'il sortait de sa rêverie, c'était pour dire tout autre chose que ce qu'il voulait dire. Il avait parfois pour son frère de singuliers regards de pitié et se sentait évidemment moins à l'aise avec lui qu'avec Grushenka. Non qu'à celle-ci même, il parla beaucoup, mais dès qu'il entrait, elle souriait, et son visage se rassérénait. Alyosha s'assit en silence auprès de Dmitri. Dmitri l'attendait avec impatience, pourtant il n'osait pas l'interroger. Il estimait impossible que Katia consentît à venir, mais il songeait que si elle ne venait pas, la vie serait désormais intolérable pour lui. Et Alyosha devinait ce sentiment. « Estrifo Borisitch, » dit soucieusement Mitya. « On dit qu'il a démoli toute son auberge. Il lève les feuilles des parquets. Il a jeté à bas toute sa galerie. Il est toujours à la recherche du trésor des 1500 roubles que le procureur prétend que j'ai caché dans cette auberge. Il s'est mis à cette belle besogne à peine rentré chez lui. C'est bien fait, le scélérat. C'est le garçon d'ici qui m'a raconté tout cela. Écoute, dit Alyosha, elle viendra, mais je ne sais quand. Aujourd'hui, demain, je ne sais, mais elle viendra, c'est sûr. Mitya tressaillit. Il voulut parler, il ne le put. Cette nouvelle lui causait une émotion profonde. Il aurait évidemment désiré des détails sur l'entrevue de Catalina Ivanovna et d'Alyosha, mais il n'osait les demander. Un mot cruel ou dédaigneux de Katia eût été pour lui en ce moment un coup de couteau. Elle a dit, entre autres choses, qu'il fallait tranquilliser ta conscience au sujet de l'évasion. C'est elle qui conduira l'affaire, si Ivan n'est pas guéri à ce moment. « Oui, tu m'en as déjà parlé, » dit Mitya. « Et toi, tu as déjà eu le temps de répéter cela à Groucha ?» remarqua Alyosha. « Oui, avoua Mitya. Elle ne viendra pas ce matin, » continua-t-il en regardant timidement son frère. « Elle ne viendra que ce soir. Quand je lui ai dit hier que Katia agissait, elle n'a rien répondu d'abord, mais ses lèvres se sont contractées, puis elle a murmuré. Soit. Elle sent que c'est nécessaire. Je ne l'ai pas interrogée, j'ai craint. Je crois qu'elle a compris que c'est Ivan que Catalina Ivanovna aime et non plus moi. Est-ce bien vrai? Peut-être non. Enfin, elle ne viendra pas ce matin, je l'ai chargée d'une commission. Écoute, notre frère, Ivan est un homme supérieur. C'est à lui de vivre, il guérira. Mais imagine-toi que Katia ne met presque pas en doute cette guérison. Alors, c'est qu'elle est convaincue qu'il mourra. C'est la frayeur qui la fait parler ainsi. Oh, Ivan a une forte constitution. Moi aussi, je crois à sa guérison, dit Alyosha d'un air inquiet. Oui, il guérira, mais je te dis qu'elle a la conviction qu'il mourra. Elle doit beaucoup souffrir. Un silence. Alyosha, j'aime beaucoup Groucha, dit tout à coup Mitya d'une voix entrecoupée de sanglots. « Mais on ne la laissera pas t'accompagner là-bas, » s'empressa de répondre Alyosha. « Mais c'est ce que je voulais dire, et puis, si l'on me bat en route ou là-bas, je ne le supporterai pas, je tuerai et l'on me fusillera. 20 ans, on me tutoie déjà ici. Oui, les garçons me disent « tu ». Toute cette nuit, j'ai réfléchi. Eh bien non, je ne suis pas en état de supporter. Je n'ai pas la force. Moi, qui voulais chanter des hymnes, je ne puis pas même tolérer que le tutoiement des garçons d'hôpital. Pour Groucha, pourtant, je supporterai tout sauf le clout. Mais on ne la laissera pas m'accompagner là-bas. Alyosha sourit doucement. « Écoute, frère, une fois pour toutes, voici mon opinion là-dessus, et tu sais que je ne mens pas. Tu n'es pas en état de porter cette croix. Tu n'es pas prêt, et tu ne l'as pas mérité. Si tu avais tué ton père, je regretterais que tu voulusses te soustraire à l'expiation, mais tu es innocent, et ta condamnation est injuste. » Puisque tu voulais te régénérer par la souffrance, garde toujours présent à ta pensée cet idéal de la régénération, cela suffira. Le fait de te dérober à cet horrible avenir t'imposera seulement l'obligation de te soumettre plus strictement que personne à la loi du devoir. Peut-être cette nécessité de tendre toujours plus haut sera-t-elle plus efficace à te régénérer que toutes les souffrances du bagne, car tu les supporterais mal, et peut-être, ayant tant souffert, t'estimerais-tu quitte. Ton avocat a dit vrai à ce propos. Il n'est pas donné à tous de porter de lourds fardeaux. Il y a des hommes qui succombent. Mais voilà mon opinion, si elle t'est si nécessaire. Si d'autres avaient à répondre pour toi, si des officiers, des soldats devaient être compromis par ton évasion, je ne te permettrai pas de t'évader, dit Alyosha en souriant. Mais on dit, on assure, et c'est le chef de l'étape qui parlait ainsi à Ivan, qu'avec adresse on peut faire cela sans danger pour personne. Certes, oh, il est malhonnête de corrompre les consciences, même dans ce cas, mais ici, je ne suis plus juge. Car si Ivan et Katia m'avaient confié la direction de l'affaire, je sais que je n'aurais pas hésité à employer la corruption. Je dois le dire à mon âme et conscience. Je crois avoir prévu toutes tes objections. En revanche, mais c'est moi qui ne me le pardonnerai pas, s'écria Mitya. Je m'évaderai, c'était déjà décidé. Est-ce que Mitya Karamazov peut ne pas fuir? Mais je ne me le pardonnerai jamais. Je consacrerai toute ma vie à expier cette faute. N'est-ce pas ainsi que parlent les jésuites? Voilà ce que nous sommes, toi et moi, mon frère, des jésuites. En effet, dit Alyosha gaiement. « Oh, je t'aime, tu dis toujours la vérité pure, sans rien dissimuler, toi. » Donc, j'ai pris Alyosha en flagrant délit de jésuitisme. Oh, je voudrais t'embrasser des pieds à la tête pour cela. Mais je vais achever de te faire mes confidences. Voici ce que j'ai résolu si je réussis à m'évader, avec de l'argent et un passeport. Et si j'arrive en Amérique, j'aurai du moins cette pensée consolante que ce n'est pas pour mon plaisir que je consens à revivre. En vérité, c'est un autre bagne, et qui vaut celui de la Sibérie, que j'irai chercher en Amérique. Car, Sibérie, Amérique, cela se vaut, Alexei. Que le diable emporte cette Amérique, je la hais déjà. Soit je régoucha. Mais regarde-la, est-ce une américaine? C'est une russe, russe jusqu'au moelle. Elle aura le mal du pays, et sans cesse je penserai que je suis la cause de son malheur, qu'elle porte sans l'avoir mérité une croix aussi lourde que la mienne. Pourrais-je supporter les smerdes du Nouveau Monde? Et pourtant, je suis pire peut-être que le pire d'entre eux. Oui, je la hais, cette Amérique. Ah, les Yankees, pff, ils peuvent être tous de grands ingénieurs ou n'importe quoi de plus grand encore, mais que le diable les emporte. Ce ne sont pas là mes gens. J'aime la Russie, Alexei. J'aime le dieu russe, tout vaurien que je sois. Oui, je crèverai là-bas, s'écria-t-il tout à coup, avec un éclair dans les yeux. Sa voix tremblait. Nous irons donc là-bas, avec Groucha. Nous nous mettrons à travailler dans la solitude, parmi les ours, quelque part bien loin. On dit qu'il y a encore des peaux rouges, bien nous irons au pays des derniers Mohicans et nous apprendrons leur langue. Ce sera notre vie pendant 3 ans. J'apprendrai aussi à parler l'anglais, comme les Anglais eux-mêmes. Et quand nous en serons là, plus d'Amérique. Nous revenons en Russie, citoyens américains. N'aie pas peur. Nous ne rentrerons pas dans cette ville. Nous irons loin, au nord ou au sud. Je serai changé, elle aussi. D'ailleurs, je me ferai faire une mouche dans la joue, ou bien je m'arracherai un œil, ou je porterai une barbe blanche, longue d'anarchine, car le mal du pays me fera vite vieillir. Et l'on ne me reconnaîtra pas. Et puis, si l'on me reconnaît, qu'on me déporte. Cette fois, je ne m'évaderai pas, ce sera le signe de la fatalité. Sinon, je labourerai dans un lieu reculé, et toujours je me ferai passer pour Américain. Voilà mon plan, je n'y changerai rien. L'approuves-tu ? Oui, dit Alyosha, pour ne pas le contredire. Après un court silence, Mitya reprit. Que dis-tu des pièges qu'on m'a tendus ? Pouf, n'importe, on t'aurait toujours condamné, dit Alyosha en soupirant. Oui, on en a assez de moi ici. Que Dieu les bénisse. Pourtant, c'est dur. Un silence. Alyosha, tue-moi tout de suite. Viendra-t-elle ou non ? Qu'a-t-elle dit ? Elle viendra, mais je ne sais si ce sera aujourd'hui. Cela lui est pénible, dit Alyosha doucement. Je le crois bien. Oh, je deviendrai fou. Et Groucha qui ne cesse de me regarder. Elle comprend. Dieu, dirige-moi. Qu'est-ce que je demande, Katia ? Mais est-ce que je comprends ce que je demande ? Oh, la violence des Karamazov ! Oh, les âmes viles ! Non, je ne suis pas capable de souffrir. Je ne suis qu'un vaurien. La voilà ! S'écria Alyosha. La porte s'était ouverte. Katia apparut. Elle s'arrêta sur le seuil. Ses yeux hagards cherchaient Mitya. Il se leva vivement, pâle d'effroi, mais aussitôt un sourire timide, suppliant, effleura ses lèvres. Et tout à coup, comme entraîné par une force irrésistible, il tendit les bras vers Katia. Elle se jeta vers lui et le fit asseoir sur le lit. Elle-même s'assit auprès de lui. Elle lui serrait les mains avec force et tremblait. À plusieurs reprises, tous deux, ils voulurent parler, mais ils s'arrêtaient et se regardaient fixement. 2 minutes se passèrent ainsi. « As-tu pardonné ?» put enfin murmurer Mitya. Et, s'adressant à Alyosha, il lui cria avec une joie étrange. « Entends-tu ce que je lui demande ? Entends-tu ? » Ton cœur est généreux. C'est pourquoi je t'ai aimé, dit Katia. Tu n'as pas besoin de mon pardon. C'est à toi de pardonner. Mais que tu me pardonnes ou non, tu as blessé mon âme, et j'ai blessé la tienne pour jamais. D'ailleurs, il le fallait. La respiration lui manqua. Pourquoi suis-je venu ? Pour baiser tes pieds, pour serrer tes mains, jusqu'à la douleur. Tu te rappelles, comme à Moscou, pour te dire encore une fois que tu es mon Dieu, que tu es ma joie, te dire que je t'aime follement, s'écria-t-elle avec un sanglot. Elle appliqua ses lèvres avec avidité sur la main de Mitya et éclata en pleurs. Alyosha demeurait immobile, interdit, confus. Il n'avait pas prévu cette scène. « L'amour est mort, Mitya, reprit-elle. Mais le passé m'est douloureusement cher. Ne l'oublie pas. Et maintenant, pour ce seul instant, rêvons que ce qui aurait pu être soi, fit-elle avec un sourire pénible. Pourtant, tu en aimes une autre, j'en aime un autre. N'importe, je t'aimerai toute ma vie. Et toi aussi, tu ne cesseras pas de m'aimer, le savais-tu? Oui, oh, oui, aime-moi toute la vie, soupira-t-elle d'une voix tremblante et menaçante à la fois. Oui, je t'aimerai, et sais-tu, Katia, sais-tu qu'il y a 5 jours, ce soir-là, je t'aimais? Quand tu es tombé évanoui et qu'on t'a emporté, je t'aimais, toute ma vie ce sera toujours de même. Ainsi se parlaient-ils en mots incohérents et exaltés. Ils se trompaient peut-être, mais ils étaient sincères. Ils n'avaient pas d'arrière-pensée. Katia, s'écria tout d'un coup Mitya, crois-tu que je l'ai tué ? Je sais que maintenant tu ne le crois pas, mais alors, au moment où tu m'accusais, le croyais-tu vraiment? L'avais-tu vraiment jamais cru? Mais je ne l'ai pas jamais cru. Je te détestais, je me persuadais que tu avais. Mais aussitôt après ma déposition, j'ai cessé de le croire. Je suis venu ici pour te faire réparation. Je l'oubliais. Cela t'est pénible, femme, dit Mitya. Laisse-moi, murmura-t-elle. Je reviendrai, mais maintenant, c'est trop. Elle se leva. Tout à coup, elle jeta un cri et recula. Grushenka venait d'entrer. Personne ne l'attendait. Katia s'élança vers la porte, mais s'arrêta devant Grushenka, devint blanche d'une blancheur de craie, et sanglota ses mots d'une voix à peine perceptible. Pardonnez-moi. L'autre la regarda en face, et après un court silence, lui dit d'une voix perfide « Nous sommes méchantes, ma petite mère, vous et moi, toutes deux. Pouvons-nous donc nous pardonner? Mais sauve-le, et je prierai pour toi pendant toute ma vie. Et tu lui refuses ton pardon ?» cria Mitya. Sois tranquille, je le sauverai, se hâta de dire Katia, et elle sortit vivement. Et tu as pu lui refuser ton pardon quand elle te le demandait, répéta Dmitri avec amertume. Non, ne lui fais point de reproche, Mitya. Tu n'en as pas le droit, observa Alyosha. C'est son orgueil qui parlait, non pas son cœur, dit avec dégoût Grushenka. Quand elle t'aura sauvé, je lui pardonnerai. Elle se tut soudainement, comme si elle refoulait ses sentiments au fond d'elle-même. D'ailleurs, nous devons ajouter qu'elle était entrée par hasard, sans s'attendre à rencontrer Katerina Ivanovna. « Alyosha, cours-lui après !» reprit avec violence Mitya. « Dis-lui, je ne sais quoi, ne la laisse pas partir ainsi !»« Je reviendrai ce soir, répondit Alyosha en serrant la main de son frère. Il rejoignit Katia. Elle marchait vite. En entendant le pas d'Alyosha, elle se retourna et lui dit « Non, devant cette femme-là, il m'est impossible de m'humilier. Je l'ai priée de me pardonner parce que je le voulais tout expier et elle a refusé. Je l'aime pour cela. Je l'aime pour cela. » Et les yeux de Katia brillaient de colère. « Mon frère n'avait pas prévu cela, » murmura Alyosha. « Il était si sûr qu'elle ne viendrait pas. »« Sans doute, laissons. Ah, adieu, je vous en prie. »
Deux semaines s'étaient écoulées. Le départ des condamnés était fixé pour le matin de ce jour. Ivan Fyodorovitch, encore malade, ne pouvait rien faire pour son frère. Katerina Ivanovna, inquiète, toujours partagée entre ses deux amours pour ces deux êtres si différents et si semblables, Ivan et Dmitri, cet esprit et ce cœur, mais ces deux sensuels, ces deux Karamazov, ne savaient que faire. Quitter Ivan malade et qui avait besoin de soins dévoués, elle ne pouvait s'y résoudre. Mais la pensée d'abandonner Mitya, de le laisser entrer, comme avait dit Alyosha dans les ténèbres, subir son injuste condamnation, agoniser de la mort lente des bagnes sibériens, cette pensée lui était insupportable. « Alexei Fyodorovitch, disait-elle à Alyosha, qu'elle avait mandé 2 heures avant le départ du convoi, que faire? Je n'ai d'espoir qu'en vous. Il me semble que vous trouverez les moyens de nous sauver tous. » Parlez, dites que faire? Lequel des deux faut-il abandonner? Car il faut choisir, ajouta-t-elle en se tordant les mains. Oui, il faut choisir, répéta Alyosha d'une voix étrange. Oui, Katerina Ivanovna, le moment est venu, il faut choisir. Oui, je vous comprends, je sais tout ce que vous pensez. Je sais qu'en vous-même vous condamnez mes tergiversations. Quel est celui que j'aime, n'est-ce pas? Si c'est Ivan, ça ne peut être Mitya, n'est-ce pas? Alyosha sourit. Mais pourquoi riez-vous? Demanda doucement la jeune fille. Si c'est Ivan, ce ne peut être Dimitri. Eh bien, qui sait, peut-être est-ce ce Karamazov que vous aimiez. Oh, Alyosha, cessez, vous me faites souffrir. Voyez-vous, tranchez vous-même mes doutes, dites, qui faut-il que j'aime? Elle était si belle comme au moment tragique de sa déposition devant le tribunal. À coup sûr, elle parlait sincèrement. Comme alors, elle jouait maintenant encore tout son avenir sur un mot. Alyosha devint très grave. Il prit dans les siennes les mains de la jeune fille et lui répondit d'une voix profonde. J'ai beaucoup pensé toute cette nuit. Si mon frère Ivan ne devait point guérir, je refuserais de vous donner un conseil. Mais j'ai revu hier soir le docteur Varvinsky et il assure qu'Ivan guérira si le traitement actuel continue. Des soins de femme et de femme aimante et intelligente, la science n'a pas encore inventé pour les maladies mentales une médication meilleure que celle-là. Si Katerina Ivanovna continue à être la garde malade d'Ivan Fyodorovitch, il guérira. J'ai déjà constaté une amélioration dans son état, mais je ne puis dire combien de temps le traitement durera. Il faut compter des semaines, peut-être des mois. Oui, ce sont les propres paroles du docteur. Vous êtes donc nécessaire ici, Katerina Ivanovna. C'est une très grande tâche que vous accomplissez, une tâche digne de vous, et peut-être, continua-t-il d'une voix changée, Fallait-il qu'il vende ou du la vie pour que puisse établir entre vos deux âmes l'harmonie absolue qui fait le bonheur? Quant à Mithya, sa destinée l'entraîne loin de vous. Il aime une autre femme, en est aimé. Vous disiez un jour que vous ne cesseriez jamais de veiller sur lui. Veillez, Katerina Ivanovna, veillez sur le malheureux. Veillez de loin comme vous auriez fait de près. Puisque vous croyez lui devoir une grande reconnaissance, acquittez-vous en l'aidant à supporter la vie très dure qui sera la sienne, quelle que soit l'issue des circonstances présentes. Pour l'évasion, je puis vous suppléer. Je pense même que, sans quelques différends récemment survenus entre Ivan et moi, c'est moi qui l'aurais chargé du soin de diriger à son défaut cette affaire. Confiez-moi les sommes, expliquez-moi les plans. Il me semble que je réussirai. Ayez confiance en moi. Il serra fortement les mains de Katia. Oui, c'est cela, Alyosha, mon cher ami, car maintenant je ne vous appellerai plus autrement. Ivan avait raison. Il m'a dit souvent qu'il y avait en ce petit bonhomme, pardon, c'est de vous qu'il parlait, plus de force de volonté qu'il n'en avait jamais vu chez personne. Oui, il semble que toutes les énergies de votre race se soient concentrées en vous pour concourir vers de nobles buts. Tandis qu'en d'autres, ajouta-t-elle avec un soupir, elles se sont dévoyées. Certes, j'ai confiance en vous. Tenez, voyez-vous ces deux enveloppes. Prenez celle-ci. Il y a 30 000 roubles. Et celle-là contient les plans. Tout y est préparé. Vous n'aurez qu'à suivre les indications. Savez-vous qui conduira le détachement? Oui, c'est un certain Konstantin Semyonovitch Bondarev. Quel homme est-il? Ce que je sais de lui n'est pas très rassurant. C'est une nature violente et bornée, et par cela même peut-être incorruptible. Mais mon Dieu, que faire alors? Les soldats importent plus ici que le chef. Oui, c'est vrai. Et n'oublions pas que le chef de la troisième étape nous est acquis. Je le sais, oui. Avant de partir, je voudrais revoir Ivan. Venez, mais ne lui parlez pas. Et s'il ne vous voit pas, n'attirez pas son attention. Les docteurs m'ont expressément recommandé de varier le moins possible les visages autour de lui. Alyosha entra derrière Katerina Ivanovna dans la chambre où Ivan était couché. Il sourit doucement, la jeune fille. Un éclair de lucidité brilla dans ses yeux, mais s'éteignit aussitôt, et une vague expression de terreur se répandit sur ses traits. Katia le considéra quelque temps en silence, puis se retourna vers Alyosha. Deux larmes roulaient sur son visage. « Sortons, » lui dit-elle à voix basse. Alyosha jeta un long regard sur son frère. « Où il guérira ?» dit-il d'une voix douce et ferme à Katia, quand il fut revenu dans le salon. « Il guérira !»« Absolument, il guérira absolument, c'est ce que j'ai toujours pensé. D'ailleurs, oui, vous aviez raison, je ne le quitterai pas, je ne dois pas le quitter. » s'écria-t-elle avec exaltation. « Il n'a que nous deux au monde, Alyosha. Mais vous, outre que vous avez mission de sauver votre autre frère, l'avenir vous séparera nécessairement de l'un de l'autre. Moi, au contraire, Ivan Fyodorovitch, peut-être mon propre avenir. » « Adieu, Katia. Adieu, frère, et adieu aussi à celui qui s'en va. » Portez-lui la dernière prière de celle qui lui a fait tant de mal. Je ne veux pas le revoir maintenant, mais dites-lui que nous nous reverrons plus tard, tous heureux. Dites-lui que je ne cesserai jamais de l'aimer et priez-le de me bénir, de me pardonner. Oui, de me pardonner, répéta-t-elle avec violence. Dites-lui encore que je veux qu'il se sauve. La liberté, l'amour avec celle qu'il aime, le bonheur. Elle n'acheva pas, un sanglot lui coupa la voix. Elle prit la main d'Alyosha, la porta rapidement à ses lèvres et s'enfuit. Alyosha resta un moment interdit, puis il secoua doucement la tête et sortit. Il courut à la prison. Le départ des prisonniers y mettait tout en mouvement. Outre Mitya, on emmenait en Sibérie deux criminels condamnés comme lui à 20 ans de travaux forcés. Alyosha obtint sans peine l'autorisation de revoir une fois encore son frère. Grushenka était auprès de lui. « Salut !» cria Mitya aussitôt qu'il le vit. « Salut, mon petit frère Alyoshenka, homme de Dieu !» Il était extrêmement exalté. Une joie, étrange à cette heure, allumait son visage. Il prit Alyosha dans ses bras et l'étreignit convulsivement. « Et je m'en vais, reprit-il Alyoshenka, sais-tu ? Oh, je crois que maintenant je supporterai tout sans peine, oui, même là-bas, même en Sibérie. D'ailleurs, ajouta-t-il après avoir regardé Grushenka, je m'évaderai, si on le veut. » Il prononça ces derniers mots, si on le veut, avec un accent qui fit tressaillir Alyosha. Il y avait dans cet abandon aux volontés des autres sur lui-même quelque chose de l'indifférence d'un mourant. Il semblait détaché de la vie, la considérait d'un regard étranger. « Mais voilà ce qu'il trouve à me dire !» s'écria Grushenka avec emportement. « Depuis que je suis là, il me répète qu'il s'évadera si on le veut. Pour lui, ça lui est égal. C'est terrible, Alexei Fedorovitch. Certainement, il n'aime plus personne. » Elle pleurait. « Ne te fâche pas, Grushka, ne te fâche pas, ma chère !» dit Mitya en caressant tendrement les mains de Grushenka. « je t'aime toujours, et j'aime aussi Alyosha et Ivan, je l'aime aussi. » « Oui, et j'aime aussi Katerina Ivanovna, » continua Grushenka en riant à travers ses larmes. « Il aime tout le monde, » ajouta-t-elle en haussant les épaules. « Oui, Grushka, j'aime tout le monde, » dit Mitya d'une voix grave. « Je ne peux plus haïr. J'aime même Boudarev, » dit-il avec un sérieux comique. Grushenka éclata de rire. « Et il faut que vous aussi, Grushenka, vous aimiez tout le monde. Même Boudarev ?»« Même Katerina Ivanovna, » dit Dmitri d'un même ton sérieux. Grushenka se détourna sans répondre. « Frère, » commença Alyosha, « je viens de la voir. Elle ne viendra pas ?»« Non, elle ne peut pas venir. Elle t'envoie ses adieux. Elle te fait dire que vous pourrez un jour, plus tard, tous heureux. » Elle te demande de lui pardonner, de la bénir. Mitya leva les mains. Une sorte d'illumination le transfigurait. « Qu'elle me pardonne elle-même et qu'elle soit bénie, » dit-il d'une voix tremblante, « qu'elle soit bénie éternellement. Je sais que nous nous reverrons et nous serons alors tous heureux, car nous aurons tous changé. Quoi qu'il arrive, j'aurai expié une vie nouvelle. Un homme nouveau, alors, je serai digne de son amitié. Car sais-tu cela, Alyosha? Elle est capable d'amitié comme un homme. Et nous serons unis pour quelque grande œuvre. Elle l'aimera, Alyosha, dit-il en désignant Grushenka, car il faut qu'elle s'aime pour que nous soyons unis. Tous heureux, tous meilleurs, vois-tu, frère, reprit-il pensif après un silence. Notre bonheur n'est plus en nous, nous l'avons tous trop usé en espérance. Nous nous dévouerons, frère, au bonheur des autres, à notre petite mère Russie. Ivan saura, quand il se réveillera, que tout n'est pas permis. Moi, je le sais déjà. Et toi, Lyoshenka, je t'ai pas appelé pour rien tout à l'heure, l'homme de Dieu. Tu nous dirigeras, tu seras notre tête, notre chef, notre saint. Il se fit un grand silence. Les deux frères se regardaient avec enthousiasme. Grushenka elle-même était émue. Frère, pour tout cela, il faut que tu t'évades, reprit Alyosha. Elle aussi veut que tu te sauves. Comme elle te l'a déjà fait dire, et elle m'a prié de te le répéter.
Eh bien, je me sauverai, je m'évaderai, Grushenka, reprit-il en se tournant vers elle. Je serai libre, puisque vous le voulez tous. Va donc pour l'Amérique. Est-ce que je reviendrai, Alyosha?
Oui, Mitya, tu reviendras. Ton exil ne sera pas long. J'irai te chercher, frère.
Toi, alors, c'est bien. Si j'ai ta promesse, je suis tranquille.
C'est cela, oui, je partirai. Tu viendras me chercher, de nouveau et pour toujours, la petite mère Russie. Oh, Alyosha, j'aime joyeusement tout le monde.
Écoute, elle veut que je me sauve.
Ben dis-lui que moi, je veux, insista-t-il avec un sourire, qu'elle épouse Ivan.
Mais guérira-t-il?
Elle le croit absolument.
Toujours l'as-tu revu?
Mais je viens de le revoir. Je ne me suis pas montré, et les médecins recommandent qu'on ne le trouble pas.
Il faut que je m'évade, Alyosha, il le faut absolument à cause d'Ivan. Si je vais en Sibérie, Ivan ne guérira jamais.
Mais comment allons-nous faire?
C'est moi qui suis chargé de tout.
C'est toi?
Oh, et comme il dit cela simplement, on dirait qu'il s'agit de la chose la plus facile.
Mais j'ai confiance, précisément parce que c'est toi. Précisément parce que tout le monde aura confiance en toi, comme moi-même. Ah, mon petit jésuite, comme tu vas les tromper tous. Sais-tu que tu es un homme terrible?
Alyosha sourit faiblement. Promets-moi au moins de faire tout ce que je te demanderai, dit-il avec une singulière solennité.
« Absolument, répondit Mitya, sans prendre le temps de réfléchir, tout ce que tu voudras. Fais seulement un geste. »
Un rapide sourire plissa encore les lèvres d'Alyosha, puis il reprit avec calme.
« Nous te suivrons, Grushenka et moi, à petite distance. Tâche de dormir et de prendre des forces pendant les deux premières journées. La troisième nuit, sois sur tes gardes, je t'apporterai des vêtements que tu mettras aussitôt. Grushenka sera là, tu t'enfuiras avec elle et pour tout le reste, elle te conduira. Tout sera prêt, la troïka, les billets de chemin de fer, j'ai déjà les passeports.
« Mais c'est merveilleux !» s'écria Mitya au comble de l'enthousiasme. « Et tout cela sans compromettre personne. Ah, frère, Je suis ravi que ce soit toi, Alyosha, qui te charge de me sauver, comme un ange. Te rappelles-tu qu'un jour, j'ai voulu me confesser à toi, parce que tu es un ange? Tu m'as toujours paru un ange. Les deux frères s'embrassèrent. Bon, j'en conviens, reprit Dimitri, c'est l'heure, ami. Karamazov va partir, mais ce n'est pas un réel adieu. Grushka, fit-il brusquement, fallait-il donc tout cela pour t'avoir, pour te mériter? La porte s'ouvrit. Le geôlier annonça qu'il venait chercher le prisonnier. Constantin Siemianovitch est déjà à cheval. Il jure qu'il vous fera marcher tous trois à coups de knout. C'est un homme violent, Dmitri Fyodorovitch. Il est ivre, dit Dmitri en haussant les épaules. Adieu, Alyosha. Adieu, Grushka. Adieu, adieu. On entendait dans la cour de la prison des voix d'hommes, une surtout qui les dominait toutes, une voix rauque et violente mêlée à des piaffements de cheval. Dimitri descendit, il était très pâle, les yeux brillants de fièvre, les dents serrées. Il prit place à côté des deux autres condamnés. Bondarev le gratifia d'un juron. Les soldats entourèrent les prisonniers et le petit détachement sortit de la cour. Quatre troïkas l'attendaient. Au moment où Mitya montait en voiture, Alyosha lui cria « Patience, frère !» Tout se passa, ou à peu près, comme Ivan l'avait prévu. Le fonctionnaire et le soldat russe ne sont pas incorruptibles. Et puis, le charme particulier qui émanait d'Alyosha, la confiance irrésistible qu'il inspirait, facilitèrent beaucoup sa tâche. Si le récit de cette évasion semble d'une surnaturelle simplicité, c'est que le lecteur se représente mal le personnage de notre jeune moine, avec sa douceur merveilleusement captivante et sa toute-puissante volonté. Et puis, il ne faut pas oublier que les êtres si manifestement inférieurs auxquels l'événement l'opposait devaient insensiblement subir son ascendant. Quelque rôle trop apparent que joue ici la vodka, c'est pourtant la volonté en vérité qui triomphe. Alyosha et Grushenka rejoignirent le convoi à la troisième étape. C'était le soir. Le convoi devait repartir le lendemain à 4 heures du matin. Alyosha et Grushenka, déguisés en moujik et en baba, se mêlèrent aux paysans qui s'étaient attroupés à l'endroit où avaient fait halte les quatre troïkas. Dimitri reconnut ses amis et échangea avec eux un rapide regard. Alyosha, très simplement, avec le ton bonasse d'un moujik honoré par la visite d'un seigneur, aborda Bondarev et l'invita à venir se réchauffer avec un ou deux verres de petite vodka. « Parbleu, tout de suite !» répondit le sous-officier enchanté. « Prohor Prohorovitch » cria-t-il à un sergent, « boucle-moi nos trois loups, tu m'en réponds !» Il accompagna son ordre d'un geste significatif et se retournant vers Alyosha, « Marche, je te suis » fit-il d'un ton bourru. Alyosha le conduisit dans l'isba d'un moujik avec lequel il s'était entendu d'avance et qu'il avait prémuni de quelques bouteilles d'excellente vodka. « Frère, dit-il au moujik en entrant chez lui, vite, verse-nous de la bonne petite vodka, nous sommes pressés. » Le moujik se hâta de disposer sur la table trois verres qu'il remplit à la moitié. Imbécile! Grogna le sous-officier, et, lui arrachant des mains la bouteille, il acheva d'emplir son verre, qu'il but d'un trait, pendant que Alyosha, d'un geste rapide, vidait le sien sous la table. Puis Alyosha lui-même prit la bouteille et remplit de nouveau les trois verres. Bondarev daigna sourire. « Alors, capitaine, commença Alyosha, vous emmenez loin ces pauvres gens ?»«
Comment, ces pauvres gens ?» hurla Bondarev et frappant du poing sur la table. « Trois assassins !»«
Oh, trois assassins !» répéta Alyosha avec admiration.
« Le dernier pris, surtout. Oh, les deux autres l'ont sur la conscience qu'un ou deux petits meurtres chacun, mais le troisième, un nommé Makarazov, a tué ses deux frères et ses deux femmes.
« Et ses deux femmes !» répéta encore Alyosha.
« Dans d'atroces tourments, oh, d'ailleurs, il n'y a qu'à le voir, on devine tout de suite l'homme capable de tout. Aussi je veille sur lui, et je l'ai confié à Volodia et Ossia, deux vieux troupiers, qui en ont vu de toutes les couleurs et ne se laisseront pas facilement tromper. » Il but un verre de vodka et fit claquer sa langue. « Mais pourtant, reprit-il, je voudrais pas les voir en tête à tête avec cette bouteille-là. Deux ou trois verres et quelques roubles, Mais oh, ça, où prenez-vous dans ce pays perdu d'aussi bonne vodka ?» dit-il en jetant sur les deux bougies qu'un regard soupçonneux. Mais je faire la contrebande.
Oh, Seigneur!
S'écria le moujik épouvanté. Dit Alyosha en riant. Il serait pas facile de vous tromper, capitaine. Nous avons, oui, à la ville, un parent qui est distillateur et qui nous fournit à bon marché de la meilleure vodka. Voilà tout notre secret. Encore un verre, capitaine? « Et alors, vous allez loin ?»«
Pas en Sibérie, parbleu !»«
Seriez-vous pas bien aise d'emporter quelques bouteilles, comme celle-ci, pour achever le voyage ?»«
Nous pourrions vous en céder à moitié prix, hein, sans compter que cette campagne vous vaudra sans doute un gallon de plus. »«
Tu n'es pas bête pour un moujik ?»
Un gallon de plus, oui, un gallon de plus, ça se pourrait bien.
Mais, diable m'emporte, je donnerais tous les gallons du monde pour un petit tonneau de ta vodka.
Il ne tient qu'à vous, capitaine, nous sommes à vos ordres. D'ailleurs, vous êtes bien placé pour avoir tout. Gallon, vodka et le reste. J'imagine que si quelque ami d'un de vos prisonniers vous offrait deux ou trois petits tonneaux de vodka pour le laisser échapper, vous prendriez les petits tonneaux et vous feriez mettre au fer l'ami, n'est-ce pas?
Le sous-officier se tordait littéralement de rire.
Moujik de mon cœur, criait-il entre deux hoquets, tu parles d'or, je veux absolument t'embrasser.
Il se leva en chancelant et fit le tour de la table pour rejoindre Alyosha, assis en face de lui. Alyosha esquiva l'embrassade de l'ivrogne en lui tendant un verre plein.
« Parbleu, tu as raison !» dit Bondarev, en brandissant le verre dont il répandit un bon tiers sur son uniforme. « Hurrah pour la petite mère Russie, les galons et la vodka !» Qu'est-ce qui va m'offrir des petits tonneaux pour laisser échapper mes prisonniers? C'est toi? Cria-t-il au moujik. Allez, donne-les vite, que je te fasse mettre au fer.
C'est lui qui l'a dit, s'écria-t-il en désignant Alyosha avec de grands éclats de rire. Il vida encore son verre et tomba assis. Il était complètement ivre. Affalé contre la table, les yeux mornes, les lèvres crispées par un sourire idiot, tout en lui révélait les vêtements d'alcoolique.
Alyosha remplit de nouveau les trois verres, constata avec satisfaction que son compagnon, le vrai Boujik, commençait aussi à être touché par l'ivresse, posa une bouteille pleine sur la table, en cacha deux autres dans les profondes poches de son cafetan, et, sortant de l'isba, se dirigea vers la station des Troïka. À une centaine de pas de la station était resté le groupe de Baba, au milieu d'elle Grushenka. En passant, Alyosha lui fit signe de se rapprocher de la station. Sur le seuil de la maison où les soldats et les prisonniers se reposaient, il aperçut un homme d'une cinquantaine d'années, grisonnant, dont les traits annonçaient, non pas la finesse, mais une certaine ruse et beaucoup d'expérience. Alyosha devina aussitôt en lui le chef de la troisième étape, Gerasi Mikhailovitch Jerklov, avec qui, on le sait, Ivan s'était déjà entendu pour l'évasion de Mitya. Alyosha le salua, Jerklov rendit le salut. « Gerasi Mikhailovitch ?» demanda Alyosha à mi-voix. L'officier tressaillit et regarda fixement le moujik. « Je suis le frère d'Ivan Fyodorovitch. » Jerklov considéra encore un instant Alyosha, parut hésiter, puis lui fit signe de le suivre et entra dans la maison. Alyosha pénétra dans une grande salle mal éclairée où les trois prisonniers et une demi-douzaine de soldats somnolaient autour d'un poêle. Jerklov traversa la salle sans s'arrêter. Tous les soldats levèrent la tête pour suivre des yeux le moujik, mais les deux frères eurent le temps de se reconnaître et un sourire de bonheur illumina le visage de Mitya. Jerklov fit monter Alyosha à l'étage au-dessus. Les deux hommes s'assirent. « Ne perdons pas de temps, commença Jerklov. Vous voulez faire évader votre frère Dmitri Fyodorovitch, n'est-ce pas ?» Alyosha inclina la tête. « En ce qui me concerne, vous savez quelles sont mes conditions ?» 4 000 roubles, dit Alyosha. Non, 5. Bon, soit 5, approuva Alyosha en souriant. Les voici contre votre parole d'honneur. Vous l'avez, répondit Rekhlov, en comptant les 50 billets de sang. Mais tout ne dépend pas de moi. Je crois le chef du détachement intraitable. Alyosha hocha la tête. Konstantin Semyonovitch, il ronfle dans une isba éloignée. Ivre, ivre. Bravo. Mais ce n'est pas tout encore. Votre frère est particulièrement confié à deux vieux soldats, difficiles à tromper. Oui, Vladimir et Osip. Oh, vous savez déjà leur nom. Oui, Vladimir Grigorievitch Biloy et aussi Porfirovitch Karpenko. Je vais sortir et vous laisser seul ici. Vous comprenez bien qu'il me faut pouvoir prouver que je n'étais pas là au moment de l'évasion. Allez, agissez. Voici la clé des fers et une empreinte de la serrure. Je vous donne cette empreinte afin que si par hasard vous vous laissiez surprendre, on la trouve sur vous. Ainsi, ma responsabilité sera dégagée. Quant à la clé, personne ne sait que je la possède. Ce n'est pas celle du poste, laquelle est ici dans un placard fermé. Obtenez des deux soldats, oh, vous y parviendrez avec des roubles, qui laissent monter ici leurs prisonniers. Ils ne voudront probablement pas le quitter, mais seul avec eux, vous pourrez vous entendre. J'avertirai le factionnaire qu'il est à laisser sortir à Boujik. Gerassi Mikhailovitch sortit. Alyosha l'entendit fermer la porte d'en bas et quelques minutes après descendit à son tour. Les soldats s'étaient endormis. On entendait d'autres bruits que les ronflements des dormeurs et les pas égaux du factionnaire devant la porte. Il faisait sombre, une lampe brûlait dans un coin, dégageant plus de fumée que de lumière. Mitya agita doucement ses fers pour attirer l'attention d'Alyosha, qui s'approcha de lui sans bruit. « Que voulez-vous ? » dit tout à coup une voix rauque. Alyosha aperçut à la gauche de son frère un soldat assis qui n'avait pas d'abord aperçu l'un des deux vieux troupiers qu'on lui avait désignés. « Vladimir Grigorievitch ? » demanda Alyosha. « Il dort, que lui voulez-vous ? » « Osip Porfirovitch ? C'est moi ? » J'ai deux mots à vous dire, reprit Alyosha, en faisant tout doucement sonner dans sa poche des pièces d'or. Le vieux soldat dressa l'oreille. Il se leva et suivit Alyosha dans un coin de la salle. Permettez-moi, dit Alyosha en glissant quatre billets rouges dans la main de Karpenko, pour quelques instants. Que faites-vous ? Dit le troupier en se baissant pour regarder dans sa main ouverte. « Permettez-moi, » reprit Alyosha, en ajoutant au billet quelques pièces d'or, « de monter avec votre prisonnier pour 2 minutes seulement dans la chambre au-dessus. »« C'est impossible, » grogna Karpenko. La main toujours ouverte, sans prendre ni rendre l'argent. « Mais vous n'avez rien à craindre, seulement 2 minutes. Vous pourriez monter avec nous. »« Monter, Humbo. Il faut que je réveille Vladimir. »« Non, inutile. Montez avec nous. Nous serons redescendus dans un instant. » Osip hésitait encore, mais Mitya, qui s'était levé, s'approcha en marchant très lentement pour étouffer le bruit des fers. « Allô, allez, n'est-ce pas ?» reprit Alyosha. « Alors vivement, alors !» Ils montèrent. « Dmitri Fedorovitch, dit Alyosha, un de vos amis hier de passage ici, m'a chargé de vous remettre cette bouteille de bonne vodka dont vous ne refuserez peut-être pas de goûter après les fatigues du voyage. » « Certes, dit Mitya, en clignant de l'œil, la belle couleur, » fit-il en élevant la bouteille à la hauteur de la lumière. « Merci, Boujiko, vous en prendrez un verre avec moi pour la peine. Osip ne pourrait pas trouver des verres d'ici. Oh, je parie bien, chez un vieux soldat russe. » Il ouvrit un placard, et les premiers objets qu'on y aperçut était une bouteille de vodka vide et des verres. Il en prit deux, les posa sur la table, puis après un moment d'hésitation, en ajouta un troisième. « Avec votre permission, » dit-il en le tendant à Dmitri, Dmitri remplit le verre. « Fameuse !» fit le soldat, après avoir bu. Il s'assit. « Bon, causez, vous gênez pas, » reprit-il, les yeux braqués sur la bouteille. Alyosha et Dmitri se retirèrent dans un angle de la pièce, tournant le dos au vieux soldat. Il les suivait de l'œil, et quand il fut sûr de n'être pas vu, tout doucement il atteignit la bouteille, l'appliqua à ses lèvres et but sans bruit longtemps. Quand il la reposa sur la table, la bouteille était notablement allégée. « Tout à l'heure, il va ronfler, » dit Dmitri. Et alors tu prendras mon caftan, continua Alyosha. Et les fers ?
Alyosha lui montra la clé. Dmitri sourit de joie.
Peut-être pourrions-nous les ouvrir tout de suite, murmura-t-il.
Alyosha se retourna. Karpenko avait de nouveau saisi la bouteille. Ses yeux se fermaient, il la heurta violemment en la reposant sur la table.
Oui, dit Alyosha, nous pouvons.
Il ouvrit les fers. Mitya laissa échapper un soupir de soulagement. Il toucha ses chevilles un peu meurtries et regarda son frère avec une expression singulière, une expression de gratitude presque douloureuse à force d'être profonde.
Alyosha sourit. « Libre, frère, » dit-il.
Mitya le prit et le serra dans ses bras.
« Maintenant, continua Alyosha, quitte tes habits et prends mon caftan. Grushka t'attend, à 200 pas d'ici, vous trouverez une troïka.
Très bien, te voilà déguisé en moujik. Vite, frère, ne perdons point de temps. Va, et que le Christ soit avec toi.
Grushka t'attend, répéta-t-il en voyant Mitya hésiter encore.
Mais pourquoi ne sortons-nous pas ensemble? Je suis entré seul. Nous éveillerions l'attention.
Va, frère, ne fais pas attendre davantage Grushka. Partez tout de suite et ne soyez pas inquiet à mon sujet.
Je partirai moi-même aussitôt que Gerasim Mikhailovitch sera rentré. C'est convenu entre nous, dit Alyosha en se détournant pour cacher sa rougeur.
Bien, dit Mitya. C'est un honnête homme dans son genre. Si tu as sa parole, il ne te trompera pas.
Adieu donc, frère.
Mitya s'arrêta un instant encore à considérer le visage de son frère. Il disait plus tard que jamais jusqu'alors et jamais depuis, il n'avait vu tant de beauté sur une figure d'homme. Alyosha avait un sourire vraiment divin. Dévouement, résignation, mépris de la souffrance, enthousiasme, froidement et consciemment exalté, ce sourire disait tout cela. Mais enfin Mitya se ressouva de Grushka et de cette liberté précieuse qu'un instant de retard pouvait compromettre. Il sortit de la pièce, descendit en étouffant le bruit de ses pas, et Alyosha comprit, plutôt qu'il n'entendit, que son frère venait de fermer la porte extérieure. Alyosha tomba à genoux et pria longtemps, silencieusement. On entendait dans la pièce que les ronflements sonores de l'ivrogne endormi. Enfin, Alyosha se releva. Il rayonnait d'une joie surnaturelle. Il se défit sans hâte de ses habits, prit ceux que Mitya venait de quitter, assujettit autant bien que mal les fers à ses pieds et à ses mains, puis, sans bruit, descendit dans la salle où dormaient les prisonniers et les soldats. L'aspect était sinistre de ces corps étendus, immobiles, sauf les rares et inconscients mouvements du sommeil. Et Alyosha songeait que tous ces hommes étaient également condamnés, aussi bien les gardiens des forçats que les forçats eux-mêmes, tous condamnés à une dure loi de misère, de servitude, de violence, et que peut-être en nul de ces cerveaux obscurcis ne jaillirait l'éclair de la bonté miséricordieuse qui seule illumine le monde. « Il est bon qu'un innocent descende parmi eux, » songea-t-il. Alyosha s'étendit à la place qu'avait occupée Mitya. Il s'endormit presque aussitôt. Son esprit était si tranquille,
sa conscience si pure. Et il eut un rêve. Celui qu'il appelait son père, son maître et son grand ami, le starets d'Ossima, parut devant lui. Il s'approcha d'Alyosha, lui imposa les mains sur le front, le baisa sur les lèvres et ce baiser rafraîchit étrangement le cœur du jeune homme. « Bien, fils, dit le vieillard, ta vie commence aujourd'hui et elle commence bien. Je t'ai toujours beaucoup aimé, Alexeï. Je savais, en t'envoyant dans le monde, que tu y resterais moine. Oh, tu auras bien des adversaires, mais eux-mêmes t'aimeront. Tu souffriras beaucoup, mais tu trouveras le bonheur dans la souffrance. Tu béniras ta vie, et ce qui vaut mieux encore, tu feras bénir ta vie par les autres. Ne t'étonne donc jamais et ne murmure pas. Tu souffriras par l'élection de Dieu, car il faut la souffrance pour que s'accomplissent, selon Dieu, les destinées de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain de froment ne meurt qu'après qu'on l'a jeté dans la terre, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ton danger, Alyosha, était que le malheur te manquât. La vie se levait pour toi fraîche et douce, et parmi nous, ô Nomaster, elle eût continué de même, indifférente à la réelle vie, laquelle est toute faite d'épreuves. C'est pourquoi je t'ai dit qu'il te fallait connaître le siècle, et je t'ai envoyé dans le monde pour t'apprendre à goûter le vrai bonheur des moines. Tu m'as compris. Tu as compris, âme innocente, âme heureuse, qu'il te fallait ta part dans les douleurs humaines et que pour l'obtenir, tu devais prendre sur toi les péchés des autres. Je savais que toi seul pouvais sauver toute ta famille, toi le doux parmi les violents. Et c'est toi qui les as sauvés, c'est toi qui as épargné le crime à Mithya, c'est toi qui as adouci les remords d'Ivan. « Père, pourquoi vous étiez-vous incliné jusqu'à terre devant Mithya ? Ne m'interroge pas. J'avais prévu en lui quelque chose de terrible. J'avais lu toute sa destinée dans son regard. Oh, ce regard m'a épouvanté. Une ou deux fois dans ma vie, j'ai rencontré chez certains hommes cette expression. Elle présageait le crime. » Et le présage, hélas, s'est vérifié. Le crime était en Mithya. Ta figure fraternelle a beaucoup adouci son cœur. Mais il souffrira, et ce sont en lui les grandes souffrances de l'avenir que j'ai saluées. D'ailleurs, ne t'enorgueillis pas. Tout vient de Dieu, et c'est lui qui t'a donné la force d'apaisement qui est en toi. Agis, agis. Aime pratiquement tes semblables. Toute la gloire et tout le mérite de l'homme sont dans la pratique de la charité. Tu agis aujourd'hui pour la première fois. Étends désormais le champ de ton action. Tu te dévoues aujourd'hui à ton frère, dévoue-toi demain à ta famille, et ensuite à ta patrie, et enfin à l'humanité. Alors tu comprendras que le seul réel paradis, c'est la vie. Ô enfant, vous êtes dès aujourd'hui en paradis, mais vous ne voulez pas le comprendre, parce que vous n'aimez pas, et par là même vous êtes en enfer, car l'enfer n'est pas autre chose que la souffrance de ceux qui ne peuvent pas aimer. Si les hommes voulaient comprendre cette vérité, aussitôt la terre ne serait qu'un paradis, et c'est la mission des moines de faire comprendre au monde cette grande vérité. Ils sont, par leur institution même, plus rapprochés que quiconque du peuple russe, qui porte en germe le salut de la Russie et de l'humanité. Car souviens-toi que plus l'homme russe est de condition humble, plus il y a de vérité en lui, parce qu'il est lui-même plus près de la nature, de l'humble et simple nature. Regarde le cheval, ce grand animal, et le bœuf, ce robuste travailleur qui te nourrit. Vois ces visages songeurs, quelle soumission, quelle exquise timidité, quel dévouement pour celui qui si souvent les frappe sans pitié, quelle bonté, quelle patience, quelle beauté. Il est touchant de songer que de tels êtres sont sans péché, car tout est parfait, Alexeï, tout est sans péché, sauf l'homme. Le Christ est avec les bêtes avant d'être avec nous. Et comment pourrait-il en être autrement? La parole a été dite pour tous, et toute la création tend vers elle. Quelles s'en doutent ou non, les petites feuilles, par le mystère de leur vie sans péché, les petites feuilles des arbres, pleurent vers le Christ et lui chantent des louanges qui lui sont plus agréables que toute notre éloquence. Humilité, charité, toute la vérité est là. Et je te dis que notre mission à nous, moines, est de persuader le monde de cette vérité. Car, malgré la hiérarchie apparente, il n'y a point de premier parmi nous. Nous nous servons les uns des autres, et chacun de nous sait qu'il est coupable devant tous. Le monde nous raille et se plaint grossièrement de la proverbiale inutilité du clergé noir. Mais combien dans ce clergé noir d'hommes modestes et sincères qui ne cherchent que l'isolement, la paix et la prière? Et c'est de ces altérés de prière et de solitude que viendra le salut de la terre russe. Ils conservent la vérité telle qu'elle leur fut léguée par les premiers pères, les martyrs et les apôtres. Quand il faudra, ils viendront la répéter au monde chancelant. Vois donc, les laïcs n'ont que la science, qui ne parle qu'à la logique des sens. Quant au monde spirituel, ils le rejettent avec majesté et dégoût. Et fondés sur leur science, ils ont proclamé la liberté. Mais qu'est devenue la liberté entre leurs mains? L'esclavage et le suicide. Le monde dit aux pauvres: tu as des besoins, ben satisfais-les. Tes droits sont égaux à ceux des riches. Mais satisfaire ces besoins, c'est les multiplier, car d'un désir contenté naît un nouveau désir. Et voilà la liberté telle que l'entend le siècle. Elle engendre pour le riche l'isolement et le suicide moral, et pour le pauvre l'envie et le crime. Tes droits sont égaux à ceux des riches, et tes moyens. Mais les riches se gavent et meurent de pléthore, sans avoir trouvé dans les raffinements du luxe un vrai contentement. Et les pauvres, aux yeux de qui ces raffinements, par cela même qu'ils les ignorent, passent pour des réalités de parfaite béatitude, les pauvres, qui du luxe n'ont que le rêve, se procurent ce rêve par le vin et meurent d'alcoolisme. Un jour, au lieu de vin, on boira le sang, Alexeï. Ces riches et ces pauvres, oserais-tu les appeler des gens libres? J'ai connu un démagogue. Il me racontait lui-même que privé de tabac en prison, il souffrait tant de cette privation qu'il avait failli renier pour une pipe les doctrines mêmes auxquelles il avait sacrifié sa liberté. C'était pourtant un de ces hommes qui disent « Je me dévoue à l'humanité ». Oui, oui, un dévouement rapide, l'héroïsme d'une heure, passe encore. Mais ils sont incapables d'une longue souffrance, parce qu'ils sont esclaves de leur sens. Par eux, la liberté est devenue un esclavage, pire que l'esclavage antique, car l'esclave romain était au moins libre quand il pouvait échapper au regard du maître. Mais tu n'échapperas jamais à ton propre regard. Au lieu de servir l'unité humaine, les démagogues ont créé le morcellement des classes, riche et pauvre, et l'égoïsme individuel. Autre est la mission des moines. On raille leurs jeûnes et leurs prières. Et c'est dans ces mortifications pourtant que consiste la vraie liberté. Je réfrène mes désirs, j'humilie mon indépendance, je mortifie ma chair, et c'est par là que j'arrive à la liberté de l'esprit et à la joie spirituelle. Qui donc sera, plus que ce libre et ce joyeux, capable de porter la grande pensée de la servir? Compare aux riches se libérer de la tyrannie, des choses et des habitudes. On reproche au moine son isolement. Tu fais ton salut entre les quatre murs de ton monastère et les devoirs mutuels de l'humanité, tu les oublies. Ah, l'isolement n'est pas chez nous. Il est chez les riches, égoïstes et corrompus. Il est chez les pauvres, vicieux et malheureux. C'est de nous autres que sortira le libérateur du peuple. Et ce sont ces mêmes moines, fortifiés de jeûnes, de prières et de silence, qui se lèveront pour la grande cause. Je te le répète, c'est dans le peuple qu'est le salut de la Russie. Et le moine russe fut toujours en communion avec le peuple. Il a nos croyances. Et nul, sans ces mêmes croyances, n'obtiendra jamais d'influence sur lui. Le peuple vaincra l'athéisme, et quand le peuple aura triomphé, nous n'aurons plus qu'une seule église orthodoxe. Gardez donc le peuple, moine, veillez sur son cœur, élevez lentement son esprit, voilà votre mission actuelle. Elle est toute de douceur, car la force est avec les doux, avec les charitables. En Europe, le peuple s'insurge violemment contre les riches. Les démagogues le mènent au carnage et lui enseignent que sa colère est juste. Maudite soit cette colère, car elle est cruelle. Oh, Alexeï, serait-ce donc un rêve que l'homme à la fin pût prendre sa joie dans les exploits pacifiques d'une science non plus négatrice et dans l'amour et qu'il se détourna enfin de la cruauté sensuelle, de la débauche, de la vanité. Pour moi, je crois que les temps sont proches. Je crois que nous allons accomplir cette œuvre avec le Christ. Combien de choses se sont produites dans l'humanité, lesquelles 10 ans auparavant paraissaient impossibles. L'heure a sonné, et elles se sont accomplies. À mon tour, je demande aux railleurs, « Et vous, quand donc établirez-vous ce règne de la justice dont vous parlez tant ? Il y a longtemps, mes maîtres, que vous êtes à la tâche, et vous n'avez guère produit qu'une aggravation notable dans l'état social. Vraiment, après ces résultats, si vous croyez posséder la vérité, il faut que vous soyez encore plus rêveurs que nous-mêmes. Alexeï, j'attends beaucoup de toi. Souviens-toi que nul n'a le droit de juger. Le juge même, assis sur sa chaise, est peut-être plus coupable que le criminel du crime duquel juge va se prononcer. Qui sait? Si le juge était juste, peut-être le criminel ne serait pas coupable. Toutes les fois que tu le pourras, comme tu le fais aujourd'hui, prends donc sur toi les péchés et les crimes de celui que ton cœur sera tenté de condamner. Souffre à sa place et laisse-le partir sans reproche. D'ailleurs, demeure sans crainte. Tu traverseras victorieusement cette épreuve et peut-être les hommes vont-ils t'acclamer pour cette action qui réprouve leur arrêt, car ce sont des enfants. Et cet éclat d'héroïsme que toi-même tu n'as pas vu dans ta simple action quand tu passais à tes jambes et à tes mains les fers de ton frère, ce mirage les séduira. Ils ne verront que lui. On peut beaucoup sur les hommes en les éblouissant. Le moine s'inclina sur Alyosha et lui traça lentement le signe de la croix sur le front, sur les lèvres et sur la poitrine. Alyosha ouvrit les yeux, un sourire d'une douceur infinie éclaircit son visage. La salle était pleine de bruit, le jour se levait. Alyosha distingua des figures grossières et brutales en cercle autour de lui et qui le regardaient. Figures basanées de moujiks soldats, esclaves aveugles du knout et de la consigne, que le sentiment de leur culpabilité évidente et du châtiment certain faisait en ce moment vraiment tragique de crainte à la fois et de cruauté. Alyosha souriait. Il va sans dire qu'il fut ramené à petite journée dans notre ville et que son procès fut instruit sans retard. L'affaire était claire, l'infraction évidente et si évidente que le coupable n'avait échappé qu'à grand-peine à la juste colère de Constantin Sieminovitch. Sans l'intervention de Gerasim Mikhailovitch, le soudard eût fait lui-même justice de ce misérable qui avait en sa personne outragé les institutions et les lois de la Sainte Russie. Gerchlov n'apaisa le sous-officier furieux qu'en l'assurant qu'Alexei Fiodorovitch serait absolument condamné aux travaux forcés à perpétuité, mais que lui, Bondarev, risquait fort en se substituant aux autorités qu'il voulait venger et compromettait par là même le crime justement d'Alyosha, etc., etc. Alors Bondarev se rendit à ses bonnes raisons. D'ailleurs, Gerasim Mikhailovitch avait personnellement un très profond mépris pour Alyosha, cet imbécile qui ouvrait une porte à un autre pour s'enfermer lui-même, quand il aurait si bien pu rester libre. Quel sot, pensait Yerchlov. Alyosha fut donc, comme nous l'avons dit, ramené à la ville. Le procès ne fut pas long, mais il eut une issue si extraordinaire que, j'en suis sûr, nul de ceux qui ont assisté à la scène finale de cet étrange drame n'ont dû l'oublier.